Ce matin, frères et sœurs, nous ouvrons notre Bible à cette lettre écrite à la communauté des Colossiens, au chapitre 1, nous lirons les versets 15 à 20. Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà, frères et sœurs, le texte sur lequel portera notre méditation ce matin. Et commençons cette méditation par le chant du cantique 213. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Alors ouvre notre cœur et dispose nos oreilles, notre intelligence, tout notre être, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité. Chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à vous baigner dans la Seine? Probablement pas. Quelque téméraire. Voilà pourtant une promesse qui ne date pas d'hier. Voyez-vous, ce seul exemple pourrait suffire à montrer que nos conditions de vie sont loin d'être les plus saines qui soient. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Jean le Baptiste baptiserait dans le Jourdain. Nous pourrions tout aussi bien parler, évidemment, de la qualité de l'atmosphère, de la qualité de certains aliments, et constater que notre environnement est quand même assez problématique. Les études scientifiques, parfois contradictoires, ne font que confirmer ce que nous constatons à notre échelle, en observant également les variations climatiques, les modifications de la faune et de la flore sur l'ensemble de la planète. Alors, je ne voudrais certainement pas faire un discours alarmiste, juste une prise de conscience, qui prépare cette conférence internationale qui aura lieu en décembre prochain à Paris, une conférence sur le climat, qui devrait réunir 40 000 personnes. L'un des objectifs de cette conférence est d'obtenir un accord pour que l'activité humaine, qui a désormais un impact majeur sur l'atmosphère et donc sur le climat, ce qui explique que nous appelions notre ère l'anthropocène, ça signifie que c'est l'anthropos, l'homme, qui agit tout spécialement sur les évolutions, eh bien, l'objectif est que l'activité humaine ne produise pas un réchauffement supérieur à 2 degrés, ce qui aura déjà quelques conséquences. La Fédération protestante s'implique tout particulièrement dans ce projet en lien avec les autres cultes français qui ont remis au début du mois un appel au président de la République. À vrai dire, cette démarche n'est pas une nouveauté en protestantisme qui est sensible depuis des années aux questions écologiques au sens large du terme. Aussi bien par la réflexion de grandes figures, celle d'Albert Schweitzer, celle de Théodore Monod, que par l'activité des théologiens parmi lesquels Jürgen Moltmann en Allemagne, John Cobb aux États-Unis. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les publications théologiques, nous pouvons constater une sorte de croissant fertile qui irait de l'Allemagne en passant par le nord de l'Europe jusque dans les pays anglo-saxons. L'arc protestants. Et tous ces théologiens ont permis de poser les bases de ce que nous appelons, en France, le respect de la création. Aujourd'hui, le respect de la création ne suffit plus. Nous ne pouvons plus nous en tenir à un statu quo, une sorte de modération qui consisterait à maintenir la situation en l'état. Car l'état actuel n'a rien de satisfaisant, comme je le disais à l'instant. Le respect n'est plus suffisant. Si le respect consiste à conserver les choses en l'état, comme on préserverait un tableau en veillant à ce que rien ne change sur ce tableau. Le respect de la création n'est plus suffisant à supposer qu'il l'ait jamais été. Dans cette lettre aux Colossiens, nous lisons que toute la création appartient à cette fratrie dont le Fils, Jésus-Christ, est dit être le premier-né. Cette formulation théologique, cette construction théologique, revient à dire que tout ce qui fait notre terre et l'univers participe d'une condition commune. Ce texte biblique, en tirant toutes les conséquences de la théologie qui professe Dieu créateur, propose une fraternité radicalement élargie. Non seulement les humains, tous les humains, sont frères et sœurs, sans exclusive, mais cette fraternité est élargie aux animaux, aux plantes, et à vrai dire aussi aux minéraux, aux éléments chimiques constitutifs de notre univers. Toute la création. Le Fils est le premier-né de toute la création, et pas uniquement d'une partie infime de cette création. De fait, le premier récit de la création, en Genèse 1, raconte le geste créateur de Dieu en incluant bien plus que l'être humain. C'est une vision non seulement universelle, qui concernerait tous les humains, mais également cosmique, que la théologie de Genèse 1 assume en présentant Dieu comme impliqué dans la création de l'ensemble du vivant et du non-vivant. Il en découle qu'une fraternité est concevable entre nous et la nature. Alors, cela n'est pas une lubie personnelle, cela n'est pas une innovation de ma part. François d'Assise parlait déjà du soleil comme de son frère. Dans le Cantique des créatures, il s'exprime en ces termes « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. » Plus proche de nous, cette fraternité avec les éléments de la création était bien sûr du goût de Théodore Monod. Laurent Gagnebin raconte que le jour où, pour la première fois, à l'oratoire du Louvre, il a prié pour tous les êtres vivants et pas simplement pour les êtres humains, Théodore Monod est venu le remercier à la fin du culte, non pas pour sa prédication, mais pour cette prière, qui était autrement plus inclusive qu'à l'accoutumée. Laurent Gagnebin, qui, pour sa part, avait milité en faveur de prières d'intercession qui intègrent la nature dans le champ des préoccupations. Cette fraternité dont parle l'Épître aux Colossiens implique le respect à l'égard de chaque composante de la création, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Mais peut-on se contenter de respect au sein d'une fratrie ? N'est-on pas appelé à plus que cela en christianisme ? Ne sommes-nous pas les gardiens de nos frères ? Si nous répondons par l'affirmative, nous ne pouvons pas nous contenter d'être un gardien de notre frère comme d'autres sont gardiens de musée, au nom même de cette fratrie dont il est question ici même. frères en Jésus-Christ, cela signifie que le mode de relation au sein de la fratrie est sur le modèle de ce que Jésus a vécu avec ses contemporains. Et Jésus ne s'est pas contenté de laisser les choses en l'état. Ce modèle relationnel n'est pas simplement fait de respect, Jésus laissant chacun dans son petit univers tranquille, mais aussi d'amour, d'agapé, cet amour qui prend soin de l'autre, non pas pour le maintenir en l'état, mais pour lui permettre de s'épanouir, pour lui permettre de s'accomplir. Autrement dit, cette épître nous invite à penser notre rapport à l'environnement à l'image du rapport que nous sommes appelés à avoir avec notre entourage. Et pour le dire avec le verbe majeur de la théologie du process, il s'agit d'enjoyer, puisque la théologie du process parle d'enjoyment, to enjoy. Difficile à rendre en français. Enjoyer, ce serait peut-être la meilleure solution, rendre le monde jouissif. Cela pour conséquence que non seulement on ne jette pas ses déchets dans les forêts domaniales, mais on prend soin des nids et des terriers que nous rencontrons. Souvenons-nous, là encore, de François d'Assise, qui, au moment de porter préjudice à un misérable insecte, s'arrête. Albert Schweitzer prend conscience que l'éthique du respect de la vie implique de préserver l'ensemble du vivant. Imaginerait-on que l'Office national des forêts se contente de dresser un cordon de sécurité autour de ses parcelles pour préserver la nature? Cela n'aurait aucun sens, puisque la nature ne cesse d'évoluer, de progresser, de mourir aussi, de se décomposer, de se métamorphoser, et que ces différentes étapes peuvent être accompagnées par la main de l'homme pour éviter que le plus fort l'emporte sur le plus faible. Je crois que c'est du côté de Rambouillet où il y a une parcelle qui est laissée en jachère depuis l'époque de Napoléon pour observer ce que la nature est capable de faire par elle-même. Et cette parcelle a un écosystème très particulier, mais avec moins de variété que d'autres parcelles qui sont entretenues. Autrement dit, de même que nous agissons auprès de nos enfants, auprès de nos sœurs et de nos frères, biologiques ou non, pour améliorer leurs conditions, nous pouvons agir auprès de l'environnement pour améliorer sa condition. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre les prières qui intègrent les animaux, qui intègrent la nature. Prier, c'est une manière de se placer face au monde et de prendre conscience de cette fraternité, de cette solidarité qui nous unit et d'être plus responsable à l'égard d'une nature que nous faisons bien souffrir de multiples manières. Sans en faire une chose sacrée, le texte biblique ne sacralise pas la nature. Les textes bibliques envisagent la nature comme un élément qui fait partie intégrante de notre histoire. Un élément qui fait corps avec nous, face à Dieu. Parce que Dieu est réputé en être le Créateur, cela signifie que la nature ne nous appartient pas. Nous en sommes les responsables, au même titre que nous sommes responsables de nos frères et sœurs en humanité. Le deuxième récit de la création, en Genèse 2, raconte la création de l'homme, Adam, à partir de la terre, Adama, ce qui montre bien le lien que le rédacteur biblique tisse entre l'univers et l'humain. L'Adam est tiré de l'Adama, la terre. Cela nous sert d'aide-mémoire. Le rédacteur biblique n'imagine pas qu'on a pris de la terre et qu'on en a fait un homme. C'est un aide-mémoire pour que nous nous souvenions de ce lien qu'il y a entre la création et nous. La nature est considérée comme notre enveloppe charnelle, ce qui est tout simplement le simple bon sens. Comme le dit le texte grec de l'Épître aux Colossiens, tout tient ensemble, ce qui est traduit par Louis II par « tout subsiste ». Synistémie, se tient avec. Et il est effectivement impossible de mettre une distance entre l'environnement et nous. On n'imagine pas que nous ne soyons pas au contact directement de l'atmosphère. Autrement, nous finirions asphyxiés. De ce point de vue, la nature est notre peau, notre enveloppe charnelle. Et cette fraternité élargie nous conduit donc à envisager notre rapport à l'environnement sur un mode majeur, l'amour, et pas uniquement le respect, si nous comprenons le respect comme une attitude de neutralité bienveillante. Alors cette fratrie, nous le constatons de bien des manières, est mise en difficulté, soit par négligence involontaire, cette insouciance que nous avons parfois, qui nous permet de ponctionner les ressources naturelles ou de dégrader l'environnement sans y prendre garde, soit par intérêt, délibérément, en toute conscience. C'est Jean-Pierre Rive qui repérait que nous avons aujourd'hui de nouvelles indulgences à notre disposition. Quelles sont ces nouvelles indulgences? Eh bien, c'est le droit de payer pour polluer. Certains sont prêts à payer des indulgences pour polluer parce que les pénalités à payer sont largement inférieures aux bénéfices de leur activité qui n'enjoye pas la création. Quand on réfléchit au fait que nous sommes dans une même fratrie et que cette fratrie est habitée par la plénitude, rappelle l'Épître aux Colossiens, notre rapport au monde, notre rapport au reste du monde est susceptible de se convertir. Comment oser dire que la nature est habitée dans la plénitude quand nous la martyrisons? De quelle manière permettons-nous vraiment de porter l'ensemble de la création à son point d'accomplissement, à sa plénitude? Ne sommes-nous pas le plus souvent dans un rapport de suprématie vis-à-vis de l'environnement? N'aurions-nous pas compris cette invitation du début de la Genèse à dominer la création comme à en être les maîtres tout-puissants qui puisent sans vergogne? Le réformateur Jean Calvin, loin de l'épouvantail qu'on en a fait, était particulièrement sensible au rapport que nous entretenons avec la nature. Reprenant la formule de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, il rappelait qu'il faut user du monde comme n'en usant pas. Manière de dire qu'il ne faut pas épuiser le monde, qu'il ne faut pas le piller, qu'il s'agit de ne pas voler à Dieu ce qui ne nous appartient pas. Ne pas utiliser le monde pour des choses dont nous n'avons pas fondamentalement besoin. En précisant, je le cite, qu'il faut savoir se tenir modérément en abondance et avoir bonne patience en pauvreté, Calvin insistait sur notre responsabilité à l'égard d'une consommation, d'une manière de vivre qui serait irréfléchie et inconséquente. De cela découle une éthique possible. Une éthique qui tient compte de l'ensemble de la création. Notre vocation personnelle, notre manière de conduire notre vie, nos choix professionnels, nos choix privés seront d'autant plus éthiques que nous tiendrons compte de ces paramètres pour que nous ne privions pas de plénitude une partie de la création. Et cela, voyez-vous, nous pourrions le porter encore mieux de manière communautaire, en faisant de notre diaconie aussi une éco-diaconie. Si on se souvient que éco, c'est oikos, et donc une diaconie de la maison, une diaconie de la maison terre. Une diaconie qui enjoye l'ensemble de la création que nous avons à portée de main. Nos scouts agissent déjà en ce sens. Les éclaireuses et les éclaireurs unionistes sont particulièrement engagés dans ce processus-là. Quant à nous, nous avons non seulement des moyens matériels et financiers, mais aussi des moyens humains pour incarner cette éthique responsable. De même que nous nous efforçons d'améliorer le quotidien des personnes, nous pourrions nous efforcer d'améliorer également le quotidien du reste de la création, non pas seulement en respectant l'environnement, en faisant attention à notre consommation d'énergie, et voyez, tous les lustres ne sont pas allumés ce matin, en évitant les gâchis, en favorisant les transports en commun, j'espère que vous n'étiez pas seul dans votre voiture ce matin, donc pas simplement en respectant, en limitant les dégâts, mais en aimant la création, en aimant notre fraternité élargie, et en prenant soin, en améliorant tout ce qui peut l'être, en participant à l'enjoyment avec d'autres. En nous engageant sérieusement dans cette voie éthique, en mettant en acte ces convictions théologiques qui sont au cœur de notre foi, nous pourrions être un facteur d'entraînement positif pour d'autres communautés, religieuses ou non. Nous pourrions ressusciter de l'espérance, l'espérance de quelques-uns qui pensent qu'on ne peut plus rien faire pour arranger les choses, que tout nous échappe. En reprenant la main sur des situations où nous pouvons intervenir, nous pourrions montrer qu'il est possible de poursuivre le dynamisme créateur dont les textes bibliques se font l'écho. Nous pourrions être agents de cette créativité qui porte toute chose à son accomplissement. Ce n'est pas nous seuls qui rendront la scène propre à la baignade. Mais nous pouvons prendre notre part à ce travail d'enjoyment qui rendra notre monde, sous toutes ses facettes, toute la création, autrement plus vivable. Amen.